France Inter.
Merci beaucoup Stéphanie Duncan, à demain. Aujourd'hui, dans l'immensité de la forêt guyanaise, racontée par...
Pierre-Michel Forget, écologiste scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Nommé botaniste du roi le 2 mai 1762, Jean-Baptiste Christophe Fusée-Aublet embarque le 30 mai suivant à Blaye, en Gironde, à bord de la frégate Le Patriote. Après près de deux mois de traversée, le navire atteint l'île de Cayenne le 25 juillet 1762. Aublet arrive alors dans une colonie encore très peu explorée du point de vue botanique, où la connaissance scientifique de la flore demeure largement lacunaire. Mais sa mission est claire, se borner à tout voir et à tout examiner de ce que cette nouvelle terre peut offrir à la connaissance. Lorsqu'il pose le pied à Cayenne, Aublet n'est pas un novice des mondes tropicaux. Il vient de passer 9 années à l'île de France, l'actuelle île Maurice. Mais la Guyane représente pour lui un saut dans l'inconnu. Une forêt américaine d'une densité inédite, une flore encore très largement absente des inventaires savants et peu de repères scientifiques sur lesquels s'appuyer. À peine descendu du Patriote, Aublet se met au travail. Dès le mois d'août 1762, au tout début de la saison sèche, il herborise sans relâche autour de Cayenne et le long des rivières. Il collecte, observe, décrit, avec pour objectif d'enrichir les collections du Jardin Royal des Plantes, futur Muséum National d'Histoire Naturelle. La forêt guyanaise se révèle aussi prodigieuse qu'hostile. Chaleur suffocante, pluie violente, insectes, maladies et fatigue extrême rythment ses journées. Ces conditions, Aublet les décrira plus tard sans complaisance, soulignant combien la recherche botanique en Guyane est une épreuve physique autant qu'intellectuelle. L'arrivée d'Aublet en Guyane marqua ainsi le début de près d'une décennie de travail acharné. De cette immersion naîtra son œuvre majeure, Histoire des plantes de la Guyane française, qui fera date dans l'histoire de la botanique. Mais plus de 2 siècles plus tard, ce livre n'est toujours pas refermé. D'autres scientifiques sont arrivés à leur tour en Guyane pour étudier cette immense forêt qui demeure toujours aussi exigeante. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Pierre-Michel Forget.
Bonjour.
Voilà, c'est sous la pluie guyanaise que nous allons commencer cet entretien. La pluie enregistrée par l'audio naturaliste Fernand de Roussen. Alors, ce fameux Aublet, vous le connaissez bien, vous en parlez dans votre ouvrage. C'est Histoire des plantes de la Guyane française, c'est comme ça qu'on
la
le prononce? Française,
c'est comme ça que l'on parlait à l'époque, on écrivait en tout cas à l'époque. Oui, c'est presque quelqu'un de proche, à force de lire tous ces noms de plantes nommées d'après Aublet, qu'il a découvertes et qu'il a décrites.
Vous publiez aux éditions Belin avec l'illustrateur et naturaliste Julien Norwood 12 mois en forêt guyanaise. En réalité, vous en avez passé beaucoup, beaucoup plus, dans lequel vous racontez votre expérience au cœur de cet écosystème spectaculaire. Le texte que je lisais donc tout à l'heure raconte l'histoire de ce botaniste du roi, Jean-Baptiste Christophe Aublet. Est-ce que c'est l'un des premiers voyages scientifiques sur place ou pas?
Non, il y en a eu d'autres. Il y avait surtout des médecins ou des ecclésiastiques qui faisaient des inventaires floristique, mais Aublet a la particularité qu'il a été formé au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a appris aussi qu'il fallait renommer les plantes avec un nom de genre et un nom d'espèce. Donc il va mettre en œuvre la réforme de l'inné finalement, et c'est vraiment un grand pas dans la connaissance de la flore de la Guyane.
Alors ça ne s'appelait pas encore Muséum National d'Histoire Naturelle.
Non, c'était le Jardin du Roi à l'époque.
Alors vous êtes spécialisé dans l'étude de la conservation des écosystèmes forestiers tropicaux et vous êtes membre du parc amazonien de Guyane depuis 2021. Vous vivez entre l'Hexagone et la Guyane?
Ouais, j'ai envie de dire que je vis à Paris, c'est là où se trouve mon institution, mais je travaille en Guyane. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas en Guyane, je travaille sur la Guyane, je travaille avec les données de la Guyane. Donc c'est un peu bizarre, on a un pied ici en Europe et un autre pied en Amérique du Sud.
Donc vous étiez là-bas il y a encore très peu de temps?
Il y a une dizaine de jours, j'étais encore en Guyane, dans le cadre du conseil scientifique du parc amazonien notamment, et auparavant pour travailler sur nos sites où nous avons installé des caméras trappes
pour observer les animaux.
Ouais, et vous me disiez être monté très haut dans les arbres guyanais.
Oui, on monte jusqu'à 35, 40, 45 mètres, voire 50 mètres si ouais. C'est possible.
Comment ? Avec des cordages en fait ?
Avec des cordes, oui, on installe une corde d'accès, tout simplement, comme le font les élagueurs. Et nous, avec notre baudrier, nous hissons tout en haut de la canopée, là pour installer des caméras. Ouais. Mais au tout début, j'ai commencé en 85 pour juste prélever des échantillons d'herbier.
Ouais, donc il ne faut pas avoir le vertige quand même, parce que 45 mètres de hauteur, c'est l'équivalent de quoi d'un immeuble de 15 étages à peu
c'est
près.
C'est cela à peu près, mais on ne voit pas le sol en fait. Alors, ouais. Donc on ne se rend pas compte de la hauteur, sauf lorsqu'on monte. Alors là, il faut quand même avoir une bonne condition physique, pour ça qu'on fait attention à notre tour de taille.
Ouais. Et les arbres guyanais, ils peuvent monter jusqu'à combien de mètres à peu près?
Jusqu'à 70 mètres pour ouais. quelques rares individus. La canopée est autour de 30-35 mètres, avec des émergents qui culminent à 50-55 mètres. Exceptionnellement, vous avez des arbres de plus de 70 mètres.
Qu'est-ce que vous appelez les émergents?
Les émergents, c'est qui dépasse la canopée, en fait. Vous avez ce coach, cette hauteur de 30 mètres, 30-35 ouais. mètres, et puis il y a des arbres qui sortent de la canopée.
Ouais. Ces caméras que vous installez, c'est pourquoi exactement? Alors, c'est pour surveiller la forêt à distance?
C'est pour surveiller les animaux au plus près, en fait, parce que traditionnellement, les biologistes travaillaient au sol, ouais. avec des jumelles ou des longues-vues, mais on ne voit pas tous les animaux, il faut travailler de jour, il faut travailler de nuit, il faut alterner. Là, ça nous permet de voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 ou 366 jours par an, la canopée, ce qui s'y passe, les visiteurs des arbres, ouais. notamment les arbres en fruits de l'arbre Yayamadou qui m'intéresse particulièrement.
Qu'est-ce qu'il a de spécial cet arbre?
C'est un muscadier, une espèce, donc le genre a été décrit par Oblet justement, c'est le genre Virola. Et cet arbre, c'est le muscadier américain qui permet aux singe-attelles, aux toucans de s'alimenter pendant presque 6 mois de l'année. Parce qu'il y a une narine très riche, ce qu'on appelle le massé aux Antilles, on utilise comme condiment à partir de la noix du muscade d'Indonésie, ouais. Myristica fragrans. Mais là, c'est un Yayamadou, c'est le Virola Micheli ou le Virola Quaté, parce qu'il est dédié au quata, qui est le singe araignée, une espèce qui extrêmement adore, hein. emblématique et qui adore le fruit. Ça, ils s'en gavent littéralement ouais. Lorsqu'ils sont en fruit. Là, c'est la période en ce moment, fin de l'année grégorienne, je dirais. Ouais. C'est le passage de la saison sèche à la saison des pluies. C'est le moment où il y a tous ces fruits en abondance dans les arbres. Et
donc, il faut imaginer l'activité des singes et des toucans aussi, vous
disiez. Des toucans, on photographie les toucans, on les filme également. On a installé également des petites caméras vidéo, là. Le terme caméra, c'est le terme anglais. On devrait dire appareil piège photographique, exactement. Ouais. C'est pas un piège au sens où on capture les animaux, on ne capture que leur image. C'est malheureusement, ça. On ne leur demande pas leur avis. Là. Ouais. Bon, bah voilà, c'est comme ça.
Votre ouvrage propose 12 tableaux en 12 mois, 12 lunes, pour raconter la richesse de la vie, hein, de cette forêt tropicale humide, et décrire donc les organismes vivants de cet habitat exceptionnel et très original. Je voudrais vraiment saluer aussi les illustrations de Julien Norwood, hein, qui non seulement sont absolument magnifiques, mais apportent aussi beaucoup pour éclairer votre texte et votre récit. Lui, il fait un travail auprès du muséum, hein, régulièrement.
Absolument, il enseigne le dessin scientifique au muséum. On a travaillé ensemble sur la création de ces planches, le choix des animaux dans des situations dans l'eau, de nuit, de jour, justement pour être au plus près de la réalité.
Ouais. Alors, vous avez 23 ans lorsque vous partez pour la première fois en Guyane, c'était en février 1984. Dans quel contexte personnel et scientifique, finalement, vous atterrissez là-bas?
Je suis parti en tant qu'étudiant en ce qu'on appelait à l'époque un DEA d'études approfondies en biologie végétale tropicale. Donc, c'était la cinquième année de mes études supérieures à l'université Pierre et Marie-Curie, qui est aujourd'hui Sorbonne Université. Et donc, je fais un premier stage et vraiment, j'ai le coup de foudre. Ouais. Et puis en rentrant, je dois finir mon rapport sur l'identification des arbres à l'aide d'une méthode assistée par ordinateur, en fait. Une méthode qui s'est développée depuis. Et puis on me dit, est-ce que tu veux retourner en Guyane? Je dis oui, bien sûr. Et il y a à ce moment-là une équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle qui repart en juillet. Donc j'ai à peine le temps de boucler mes valises et je suis reparti en Guyane pour 3 mois en pleine aventure scientifique et réellement loin de tout.
Et ça fait 40 ans que ça dure. En février 84, vous racontez que vous tombez sous le choc d'un livre, celui de Jean Hureau, tout comme un autre homme d'ailleurs qui s'appelle Pierre Fresnay, géomètre à l'IGN. On va l'écouter. Il décrit, comme vous d'ailleurs, l'émotion qu'il a aussi grâce à ce personnage Jean Hureau.
Moi je débarquais en Guyane pour la première fois en 56. On a cherché les candidats pour aller au fond de la Guyane, Et c'est là, en arrivant à Maripasoula, que j'ai rencontré Jean Hureau. C'est quand même Jean Hureau qui m'a tout appris de la Guyane.
Je pense que pour lui, la photo, c'était un support d'études ethnologiques, justement. S'il a fait tant de photos dans les villages, il faut reconnaître que ces photos de têtes, de personnages, de bustes sont très bonnes. Hein. Là, on voit bien les traits de caractère de chaque personnage. C'est assez remarquable. Hein. Je pense qu'il était absolument mordu par ça.
Voilà, par sa passion. Et c'est le cartographe ethnologue Jean Hureau, évoqué là à l'instant par Pierre Freinet. Ça a été un choc pour vous, jeune homme, donc en 84, de découvrir ce personnage, Jean Hureau ?
Oui, j'ai découvert surtout son ouvrage sur les Wayana et les Boni du Maroni. Et c'était un autre monde pour moi.
De quoi vous parlez exactement pour...
De l'ouvrage de Jean Hureau, ouais. Justement, qui décrivait la vie matérielle des populations du fleuve. Quoi.
C'est ça.
Voilà, donc pour moi qui était parisien, voyez, c'était un grand pas dans la connaissance que j'ignorais totalement. Hein.
Ouais.
Donc ça a été fort parce qu'on n'est pas habitué à cela, on ne nous a pas vraiment préparé. Même si j'ai eu des cours d'ethnologue, d'anthropologue, d'ethnobotaniste au muséum, ces petits parisiens, vous arrivez dans la Guyane, vous êtes avec des peuples qui ont une longue histoire, à la fois les Amérindiens, mais aussi les Noirs marrons, les réfugiés. Et là, vous apprenez qu'il y a une autre vie ailleurs.
Ouais. Dans cette forêt, souvent qualifié à l'époque d'enfer vert.
Oui.
Donc il y a tout un fantasme.
Il y a
aussi,
tout le fantasme, hein, autour de la Guyane. Et je raconte que mon grand-père, qui était né en 1906, lorsque je lui ai annoncé que j'allais travailler en Guyane, pour lui, c'était, on allait mettre les fers aux pieds. Et
ouais.
Il ne pouvait pas imaginer qu'on aille en Guyane étudier le fonctionnement de la forêt tropicale.
Il pensait que vous alliez finir au bagne.
Non,
en fait.
Mais il me disait qu'il ne faut pas qu'on te mette les pieds au fer. Quoi.
Ouais.
Pour lui, réellement, c'était un autre monde. Il vivait, il avait vécu le bagne, il savait qu'on envoyait tout le monde au bagne avant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour lui, c'était un monde désagréable, il y avait très peu de reportages, personne ne connaissait réellement ce qu'était la Guyane, qui est, ouais, un département aujourd'hui tout à fait vivable et très sain, contrairement à ce qui a été écrit. Et moi-même, j'ai pu découvrir très rapidement qu'on y vivait très très bien. Si je ne m'y suis pas installé, c'est pour des raisons, je dirais, personnelles, d'emploi, historiques. Ma vie, je l'ai faite à Paris et pas en Guyane, mais j'étais tout à fait prêt à la sortie de ma thèse de m'installer en Guyane.
Qu'est-ce qui frappe en fait quand on arrive sur place? Qu'est-ce qui explique le coup de foudre là, que vous décriviez tout à l'heure, Pierre-Michel Forget?
Ben, je suis parisien. Pour moi, les bois, c'est le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, éventuellement le massif central, les forêts de pins. Il faut s'habiller. Vous arrivez en Guyane, c'est une étendue verte, c'est une diversité. Vous ne pouvez pas reconnaître tous les arbres. À chaque fois que vous faites un pas, il y a un arbre qui est différent, c'est une espèce différente.
Ouais.
Il y a des animaux qui sont totalement nouveaux. Donc il faut tout réapprendre, il faut tout abandonner et il faut se ressourcer complètement. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce, ouais, livre, c'est expliquer que c'est un autre monde.
Et vous insistez beaucoup sur la notion de temps long également.
Le temps long,
c'est important.
Oui, le temps long est important parce que les journées sont courtes, en fait. C'est ce qui est paradoxal. Vous avez une journée de 6, disons 12 heures.
Ouais.
On se lève très tôt, on se couche très tôt aussi. Et le temps long parce que il faut des années pour comprendre le fonctionnement de l'écosystème forestier. Souvent, les chercheurs aujourd'hui, ils vont en forêt, ils vont un mois, deux mois, ils repartent et puis ils ne prennent pas le temps de connaître le rythme de la vie en Guyane. Moi, j'y ai vécu plus de 3 ans, une 4e année, je suis revenu plusieurs mois après ma thèse. Donc, en tout, j'ai pu saisir le temps long de la Guyane. Et depuis 40 ans maintenant, je me rappelle comment c'était en 1984. Donc, c'est ça aussi le temps, oui, long, c'est de revenir sur les mêmes sites 30 ans, 40 ans après et s'apercevoir finalement qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Pourquoi vous remettez en cause le calendrier classique d'une certaine manière?
Je remets en cause le calendrier classique parce que le fonctionnement de la forêt tropicale n'est pas, commence pas le 1er janvier, il ne termine pas le 31 décembre. Il commence, oui, avec la saison sèche, il est rythmé par l'intensité de la saison sèche, puis le retour des pluies, et ensuite l'intensité de la saison des pluies. Donc c'est un autre calendrier qu'il faut apprendre, qu'il faut décrire. Et pour comprendre le fonctionnement de la forêt tropicale, eh ben, on ne commence pas le 1er janvier, on commence fin de saison sèche, en septembre, du moins en septembre, septembre-octobre, nous avons la saison sèche, la fin de saison sèche est fin novembre, c'est maintenant, décembre, c'est le début de la saison des pluies, et c'est ce qui rythme la vie en Guyane.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pierre-Michel Forget, nous entendons sous nos voix des colonies de caciques, le chant des caciques, enregistré à nouveau par l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. Ce sont des oiseaux qu'on croise souvent dans cette forêt guyanaise que vous décrivez ?
Oui, on les croise en ville sur les grands arbres où ils font leur nid qui est pendulaire. Et puis aussi le long des fleuves, par exemple dans des grands fromagers, on les voit, ils sont là, ils vont, ils viennent entre les arbres en fruits qu'ils consomment. Et on les observe nous-mêmes dans nos fameux yayamadou.
Qu'est-ce que c'est que les yayamadou ?
C'est le fameux virola, le muscadier, qui produit des fruits avec des arils rouges lipidiques.
Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans la première partie de cette émission, vous publiez aux éditions Belin avec l'illustrateur et naturaliste Julien Lanwood, donc 12 mois en forêt guyanaise, sur votre expérience donc depuis 40 ans, au cœur de cet écosystème extraordinaire. Vous disiez que étudier cette forêt en tant que scientifique, ça implique des séjours très longs sur le terrain. Et vous évoquez également l'acceptation de ne rien voir pendant certaines périodes. Pourquoi c'est important, ça, de se le mettre un petit peu en tête?
Oui, il ne faut pas se décourager. On nous montre nombreuses images de la faune, des forêts tropicales. On a l'impression que lorsqu'on va mettre le pied dans la forêt, là, d'un seul coup, il y a un jaguar, un puma, des singes qui vont passer, des oiseaux, des pécaris. En fait, non, il ne va rien se passer. Au contraire, les animaux sont tapis dans l'ombre.
Ils se cachent, ils fuient l'humain.
Ils se cachent, en tout cas. Ils nous observe, c'est certain.
Ouais. Et on le sent, ça ? L'observation, on le sent ?
Je ne sens pas si un puma est à côté de moi. Par contre, je vois lorsqu'un singe attelle et au-dessus de moi, il m'observe, il me lance éventuellement des branches. On le voit très très bien. Donc il faut être patient. Il faut être patient en forêt. On apprend la patience, et ce qui nous permet aussi de se fondre dans l'environnement, de ne pas faire de bruit, pas parler, écouter la forêt, et surtout au moindre craquement, au moindre bruit, balancement d'une branche, on dit tiens, ça c'est de la telle, ça c'est du quatta. Mmh. Quatta, c'est le singe hurleur. On entend des piaillements, tel oiseau. Donc c'est extrêmement important aussi d'être attentif et d'être patient, surtout la patience.
Est-ce que cette acuité de votre oui, vous la développez aussi quand vous êtes de retour dans l'Hexagone ou pas ? Est-ce que vous avez un sens de l'observation sonore qui est très développé ou pas ?
J'ai un sens de l'observation, je ne sais pas s'il est plus développé. Avec l'âge, on commence à perdre un peu certaines fréquences. Non, j'ai surtout un sens de l'observation visuelle, très important, avec un champ qui me permet de voir beaucoup de choses que j'utilise en forêt. Par contre, à l'inverse, malheureusement, à contrario, je suis un peu daltonien, ce qui m'empêche de voir le rouge sur fond vert, ce qui n'est pas vraiment une qualité pour un botaniste.
Quelle est l'ampleur de cette forêt guyanaise pour qu'on comprenne bien, en fait, de quoi il s'agit là ? Parce qu'on parle d'une forêt française majeure.
C'est une forêt française majeure, c'est 90 000 km². On a 1600 espèces d'arbres, une quarantaine de palmiers, on a 600 espèces d'oiseaux en forêt, il y en a un peu plus avec le littoral, on a 200 espèces de mammifères.
Et le territoire de Guyane, c'est 96%, c'est ça, c'est de la forêt ?
On peut dire que c'est de la forêt en quasi-totalité. Il y a un peu de savane sur le littoral. Vous avez les mangroves, qui est de la forêt aussi. Il ne faut pas l'oublier. Une mangrove extrêmement importante, puisqu'elle protège le littoral. Mais c'est surtout, c'est une forêt riche d'arbres, de plantes, d'épiphytes. On est loin d'avoir fait l'inventaire exhaustif de la forêt, pardon. Mais c'est aussi, il faut penser, un hectare de forêt. Prenons un exemple, un hectare de forêt, 100 mètres sur 100 mètres, c'est facile à imaginer, c'est 500-600 arbres de plus de 10 cm de diamètre, 10 cm ça fait ça, et c'est à peu près la moitié de cette population, c'est une espèce ou deux, et le reste c'est la diversité. Donc vous avez vraiment de l'ordre de 180 à 200 espèces d'arbres, là où il y a 500 à 600 arbres en tout.
Ouais. Et à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, pourquoi elle est exceptionnelle cette forêt guyanaise ?
Elle est protégée parce qu'elle est pratiquement, entre guillemets, intacte aujourd'hui. Je mets à part l'orpaillage et la destruction des milieux le long des fleuves et des rivières. Je mets à part l'empoisonnement au mercure de la chaîne alimentaire.
On va en reparler tout à l'heure. Ouais.
Mais sinon, c'est une continuité. C'est ce qu'on appelle le brocoli.
C'est la forêt de brocoli.
C'est la forêt de brocoli.
C'est ce qu'on voit quand on survole cette forêt.
Donc,
on va écouter un extrait du journal de l'Outre-mer sur RFO. C'était en décembre 1994. Et dans cette archive, le projet du parc national au sud de la Guyane est évoqué, avec la réaction, vous allez l'entendre, d'un jeune Amérindien au sujet de ce parc.
Une faune et une flore uniques au monde, c'est la seule région française où la pirogue supplante l'automobile, où les habitants ne portent pas de costume-cravate, où la nature est reine. C'est le grand sud de la Guyane, au seuil de l'Amazonie. Ce sera enfin, si tout se passe comme prévu, un parc national officiel.
Comme notre chef coutumier nous a dit qu'il ne faut pas que les Blancs qui fassent la parc national au pays Wayana, quoi. Ouais, ça l'intéresse même pas. Ils veulent vivre comme ils vivent, comme toujours, quoi. Ouais.
Pour l'instant, le parc de la forêt tropicale reste donc un paradis perdu au fond de l'enfer vert.
Ça, c'était en 1994, Pierre-Michel Forget. Une réaction, justement, sur ce que dit ce jeune Amérindien qui ne souhaite pas la création du parc national, ce qui a été fait plus tard.
Ben, la réaction, c'est une réaction au départ, disons, de rejet, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être exclus du parc. Or, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Les populations amérindiennes et ebonies font partie intégrante du parc aujourd'hui. Il y a la zone d'adhésion, il y a la zone cœur. Ils ont tout à fait le droit de continuer leurs occupations journalières, faire les abattis dans les zones d'adhésion, de partir à la chasse. Il y a même des dérogations pour pouvoir tuer des espèces protégées, dans le cas de rites funéraires notamment. Donc le parc a aussi évolué avec le temps. On est passé d'un parc sans humains à un parc avec des humains. Ma deuxième réaction, c'est toujours à nouveau, en 94, c'est l'image de ce paradis
d'enfer vert,
et qui est déplorable, parce que c'est ni l'un ni l'autre, c'est une zone d'une grande richesse, et c'est une zone de vie avant tout pour les humains et les non-humains. Et l'un dépend de l'autre, et vice-versa, puisque les humains ont aussi modifié l'environnement et propagé des essences, des espèces végétales qui profitent aux animaux. Donc.
Et le parc amazonien, c'est le parc national en réalité ?
C'est le parc national amazonien, c'est le plus grand parc terrestre de l'État français.
Il y en a plusieurs sur le territoire de la Guyane ?
Non, il n'y a qu'un seul parc. Parc naturel national, et un parc national. Il y a des réserves naturelles, comme la réserve naturelle des Nourailles, comme la réserve naturelle de la Trinité, la réserve naturelle de Corura, qui se trouve aux portes de Cayenne.
Ouais, et qui sont des lieux de science aussi, hein, c'est
ça ? Qui sont des lieux visités par les scientifiques, qui sont des lieux très agréables pour s'y déplacer, qui sont très fréquentés aussi de plus en plus par les touristes, lorsqu'ils sont accessibles par le fleuve ou par la route.
Ouais. Alors, votre travail s'inscrit au sein d'une équipe qui s'appelle Ecotrop. Sur quoi portent vos recherches exactement, Pierre-Michel Forget ?
Alors, Ecotrop, c'est le logo de l'ancienne équipe du CNRS Écologie Tropicale, qui s'était installée au tout début au Gabon, et qui en 86 a un peu plié bagage et s'est rapatrié sur la Guyane, sur la station des Nourages. Et j'ai intégré cette équipe Ecotrop très tôt, et nos recherches concernent les relations entre les plantes et les animaux. Ça peut concerner les animaux comme les singes, les primates qui consomment et dispersent des graines, mais également des animaux pollinisateurs, des insectes. On étudie toute la diversité des coprophages, par exemple, qui sont importants dans le recyclage de la matière. On étudie la diversité des pollinisateurs, des insectes qui permettent la fécondation des plantes et la production de fruits. On étudie aussi, depuis plusieurs années, l'impact de l'homme sur l'environnement, et notamment dans les réserves naturelles, qui sont de plus en plus soumises à une pression anthropique élevée, et notamment en bordure de la réserve naturelle des Nourages.
Alors, vous avez beaucoup travaillé sur le carapa, c'est un arbre en particulier, pourquoi celui-là ?
Alors, le carapa, c'est un arbre, et ce sont des espèces, en fait. C'est ce qu'on appelle une espèce transocéanienne, le carapa existe en Afrique et en Amérique.
Oui.
Et cet arbre en particulier, parce que, un, il permet d'alimenter les rongeurs qui dispersent les graines, comme nos écureuils dans nos régions, ils font des réserves, mais aussi parce que l'homme extrait de l'huile à partir de ces graines, cette huile naturelle, permet de se protéger et également de se soigner.
Le wapa, il occupe aussi une place centrale dans votre ouvrage. Pourquoi ? C'est une autre espèce végétale ?
C'est une autre espèce d'arbre, très diversifiée également, qui a été décrite par Roblet et qu'on trouve extrêmement fréquente le long des fleuves et à l'intérieur du pays. Et c'est une des espèces les plus dominantes dans le cortège floristique de la Guyane.
Donc c'est très visible.
C'est très visible.
Ça ressemble à quoi, juste pour ceux qui
nous parlent ? C'est un arbre avec ce qu'on appelle des branches plagiotropes qui sont à l'horizontale, avec de longs filaments fleuris.
Ouais.
Là, ils sont en train de passer et se développer en fruits. Ce sont des fruits, des gousses qui éclatent et qui projettent les graines. Et c'est un arbre qui a un bois très très dur, très résistant aux termites, et qui permet de constituer des peuplements très denses. Et c'est un arbre extrêmement important, puisqu'on fait des toits de lauze, des tuiles de bois, on fait des poteaux. C'est un arbre qui peut durer des dizaines d'années dans le sous-bois sans pourrir.
Et dans l'écosystème, il joue quel rôle également ?
Il permet aux animaux de s'alimenter à partir du nectar des fleurs, fleurs. Les graines sont ensuite aussi exploitées par les rongeurs. Donc vraiment, ça nourrit plusieurs catégories d'animaux vertébrés et invertébrés.
Il y a une autre plante spectaculaire dont vous parlez, c'est le moureroux.
Alors, le moureroux, c'est la plante, je dirais, la plus extraordinaire qui soit. Elle est pratiquement invisible, quasi totalité de l'année. Et puis, d'un seul coup, en fin de saison des pluies, lorsque l'eau baisse, ce sont des plantes qui sont encroutantes, dont les feuilles recouvrent les roches et qui se mettent à fleurir. Et ça devient splendide parce que vous avez d'un seul coup l'ensemble des rapides qui sont couverts de ces fleurs roses, fuchsia. Et c'est littéralement splendide. C'est un des moments, je pense, les plus extraordinaires que j'ai vécu sur le fleuve. C'est ce moment où toutes les fleurs sont roses dans cet environnement vert. C'est très, très beau.
Pierre-Michel Forget, on verra dans un instant comment protéger aussi ce territoire face aux pressions croissantes qui s'exercent aujourd'hui, liées évidemment aux activités humaines. Vous êtes notre invité cet après-midi dans la Terre au Carré autour de ce livre, 12 mois en forêt guyanaise. C'est aux éditions Belin.
France Inter. La Terre au Carré.
Vous nous avez ignorés en tant que peuple et en tant qu'individu détenteur des droits égaux aux vôtres. Vous avez envahi nos territoires et pillé nos ressources en ignorant notre droit le plus fondamental qui est celui de continuer à vivre de nos terres. Si tel est notre bon vouloir, nous n'avons tiré aucun bénéfice de votre système d'exploitation de ressources de nos terres. En retour de nos ressources, vous ne nous avez démontré qu'ignorance et mépris.
Il faudra continuer à lutter, à se battre pour obtenir ce que l'on doit obtenir, ce qui revient, les véritables droits des Amérindiens qui n'ont jamais été reconnus, qu'on le veuille ou non, par toutes les administrations, quelles qu'elles soient.
Voilà un document de Radio Télé Martinique, RFO Télé Martinique. C'était le 17 décembre 1984, un texte très important dans l'histoire de la Guyane, celui d'une revendication déposée à cette date au ministère des Dom-Tom et lue publiquement, on l'a entendu, par Félix Tiuka, président de l'Association des Amérindiens. Et on entendait juste à la fin de ce reportage André Cogna, un Français adopté par les Wayana, qui évoquait donc les luttes à mener pour l'obtention des droits des Amérindiens. Pierre-Michel Forget, vous qui publiez 12 mois en forêt guyanaise, évidemment. Cette année 84, elle est importante parce que c'est l'année où vous arrivez, vous, en Guyane. Et donc, tout de suite, en fait, vous êtes confronté aussi à ces revendications des Amérindiens.
Mais paradoxalement, non, je dirais, parce que, étant scientifique, étant, déplacé au centre de la Guyane, je suis très loin de Awala Yalimapo à l'époque, il n'est pas accessible, il y a une petite piste, on ne se déplace pas si facilement en Guyane, il faut traverser des rivières, il y a des bacs. Donc non, je ne connais pas du tout ce qui s'y passe, la télévision ne fait pas écho, moi-même en forêt, donc j'ai pas la télévision bien sûr, et pas la radio, donc ça reste pratiquement, ça reste ignoré. Et je découvre en fait cela juste par hasard, en me rendant à Awala Yalimapo, j'ai un collègue qui travaille à l'écloserie de Jacques Fretet et pour protéger les tortues luttes. Et c'est un peu par hasard, je suis tombé à Yalimapo et j'ai découvert ce mouvement des peuples autochtones que portait Félix Tiuka, ouais, que je connais bien.
Et qui vit toujours en Guyane. Qu'est-ce que ça représente, ce discours, alors, dans l'histoire justement de ce département?
C'est important. Moi, je l'ai découvert très tardivement, finalement, dans la revue Survival. Je l'ai lu quelques années après, et j'ai découvert qu'il y avait une revendication forte des peuples autochtones, des Kalinia, et je l'ai redécouvert en relisant les auteurs de l'époque de la colonisation, car il ne faut pas l'oublier, la Guyane a été colonisée par les Européens, c'est aujourd'hui donc un département de l'État français, mais les Kalinia nous avaient extrêmement bien reçus, ils nous avaient accueillis, ils avaient sauvé les explorateurs qui étaient totalement incapable de survivre dans cet environnement entre guillemets hostile, qui ne savait pas comment il fallait cultiver, qui arrivait en pleine saison des pluies alors qu'il faut préparer en saison sèche le terrain pour pouvoir planter et avoir de quoi se nourrir pendant la saison des pluies. Donc les Amérindiens, les autochtones, ont littéralement aidé les Européens à les coloniser. En retour, ils ne leur ont pas donné grand-chose, si ce n'est des maladies, et ils les ont un peu repoussés également. Donc c'est important en Guyane, parce qu'aujourd'hui le mouvement autochtone est très puissant. D'autre part, il faut reconnaître que ces peuples étaient là avant nous, qui sont arrivés il y a plusieurs millions d'années, plusieurs centaines d'années pour certains, comme les Wayana ou les Wayampi, qui sont arrivés du Brésil, mais qui ont pris la place d'autres Amérindiens qui ont disparu, exterminés par les grippes notamment. Donc c'est très important, la reconnaissance du droit des peuples autochtones à disposer de leur territoire, finalement.
Ouais. Cette question des droits des peuples autochtones, elle est toujours aussi vive en Guyane aujourd'hui ou pas?
Elle est toujours aussi vive. On attend du gouvernement français qu'il rende des terres aux peuples autochtones pour qu'ils puissent vivre, survivre. Notamment, actuellement, lorsqu'on voit les problèmes de la maladie du manioc, il faut de plus en plus de terrains à abattre pour pouvoir cultiver. Donc oui, c'est important, mais c'est aussi important pour protéger l'environnement, parce que ces peuples ont protégé finalement la forêt tropicale que nous avons découverte comme étant, entre guillemets, vierge. Mais en fait, non, elle n'était pas du tout vierge, elle était déjà habitée.
Ouais. Les travaux... Et ils en ont une connaissance très très importante, évidemment, ce qui pour vous, d'ailleurs, scientifique, est aussi quelque chose de très précieux, j'imagine.
C'est important. Moi, en tant que scientifique, j'ai eu moins de contact avec les peuples autochtones que mes collègues ethno-machins, comme dit mon collègue Serge Bahuchet.
Ethno-botaniste.
Botaniste, ethno-anthropologue, donc j'ai moins de contact avec les populations. Mais oui, c'est important. Leur connaissance, ils ont des milliers d'années d'essais et de mauvais essais de la forêt tropicale.
Pendant la COP 30 de Belém, une délégation de 8 personnes venues de Guyane française a participé au cortège pour appeler à la sauvegarde de l'Amazonie et à la prise en compte de leur voix dans les négociations de la COP 30. On a vu qu'il a fallu forcer les portes pour essayer d'être entendu. Ça reste quand même très compliqué sur le continent américain.
Ça reste compliqué parce que d'un côté, vous avez des populations qui sont en Kalimbé, en tenue traditionnelle, puisqu'il fait chaud. Hein. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres qui sont en costume, en trois quarts, cravate. Ouais. Ce sont deux mondes qui s'ignorent et qui ne se connaissent pas finalement. Et tout se décide très loin des pays tropicaux. À Paris, on décide de ce qui se passe en Guyane ou à Bruxelles. Donc oui, c'est important qu'ils fassent entendre, en tout cas.
Pourquoi c'est un enjeu majeur pour le 21e siècle, la forêt, justement, amazonienne en particulier?
La forêt amazonienne particulièrement est très importante parce que c'est l'endroit qui reçoit le plus de soleil, c'est là où le sol s'échauffe le plus. Si on coupe la forêt, ce ne sont pas 1,5 degré qu'on va gagner, on va passer au-delà des 3 degrés. On est déjà à 1,5 dans nos régions, 1,5 aussi en Guyane, mais ce 1,5 il a toute autre signification parce que vivre à 35 degrés, je peux vous assurer, c'est quand même très très difficile.
Surtout avec l'humidité.
Avec l'humidité. Dernièrement, les températures étaient de 34 à 35 fin novembre. Ouais. Ça commence à être difficile.
On a vu des images aussi des effets du changement climatique sur les fleuves en Amazonie. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez spectaculaire et de très nouveau aussi, non, sur place?
C'est très nouveau. Il y a toujours eu des saisons sèches avec des fleuves bas, des niveaux de l'eau hauts. Mais surtout, c'est ce qui devient de plus en plus difficile, c'est le transport des denrées, c'est le transport de l'eau. L'eau qui vient à manquer sur le Maroni, par exemple. On est obligé d'acheminer de l'eau en bouteille dans un pays qui regorge d'eau. Donc, ça devient compliqué. Et puis, d'autre part, ce qui est aussi compliqué, c'est que les peuples ne peuvent plus se déplacer pour aller chasser de plus en plus loin, parce qu'il y a de moins en moins de ressources aussi.
Ça, l'eau, ça vous inquiète beaucoup, vous?
Ça m'inquiète depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans même. Oui, l'eau, c'est je pense, c'est on commence à voir émerger dans l'Hexagone des guerres de l'eau. Et oui, il y aura des problèmes, des conflits avec l'eau, même dans les régions tropicales.
La question de l'orpaillage illégal, vous en avez parlé tout à l'heure, Pierre-Michel Forget. On va écouter à ce sujet l'extrait d'un reportage sur France 24 en mars dernier.
La pire catastrophe environnementale sur le sol français. Pour amalgamer les paillettes d'or, les orpailleurs utilisent du mercure qu'ils relâchent en très grande quantité dans la nature. 12 tonnes par an, selon une estimation de l'ONG Wild Legal. Or, le mercure est très toxique, même en toute petite quantité. De plus, il est très persistant, c'est-à-dire qu'il se dégrade très lentement et reste donc dans l'environnement longtemps. Il s'accumule dans les tissus des poissons, par exemple, surtout des poissons carnivores qui mangent des proies déjà contaminées, et donc ces poissons sont consommés par les Amérindiens qui développent des troubles visuels, auditifs, ont des convulsions.
Extrait de l'émission Élémentaire avec Audrey Racine sur France 24, Pierre-Michel Forget. La pire catastrophe environnementale sur le sol français, l'orpaillage.
Oui, parce que c'est la destruction des milieux du réseau hydrographique de la Guyane. C'est le mercure qui s'accumule dans la chaîne alimentaire, comme cela a été mentionné, qui s'accumule dans le sang, dans les cheveux des populations autochtones, mais pas que autochtones, je dirais peuple amérindien ou boni, mais aussi dans les cheveux des populations du littoral qui s'alimentent et qui mangent du poisson pêché dans les fleuves. Donc oui, c'est une catastrophe environnementale majeure. Malheureusement, on est un peu face à un mur d'incompréhension. On a plus de 20 ans de retard sur ce problème-là. J'ai dénoncé cela dès les années 2000. Aujourd'hui, on est je dirais, c'est dramatique.
Ouais, votre équipe a été confrontée directement à cette situation ?
L'équipe a été confrontée directement à plusieurs reprises. D'une première fois sur le barrage de Petit Sault, où notre installation du muséum a été, occupée, pillée par les orpailleurs. Ouais. Mais aussi sur la Prouag, où il y a des membres de l'association Arataï qui ont été assassinés, Capi et Domingo. Ouais. Donc oui, c'est une situation dramatique pour l'environnement et puis pour les humains.
Pourquoi les mines légales posent également problème en Guyane ?
Les mines légales, je dirais, posent problème en ce sens que le sol, le sous-sol guyanais, ce qu'on appelle la roche verte, est extrêmement riche en or. Or, il se trouve que superposé à ce sol, il y a de la diversité. Donc, il faut exploiter l'or en disant, c'est un peu le combat du David contre Goliath, ou bien il faut faire attention à extraire de l'or sans détruire la biodiversité, ce qui est problématique. Donc il faut bien choisir les sites où l'on va exploiter.
Il faut bien choisir sa richesse, j'allais dire.
Il faut bien choisir sa richesse, mais aussi savoir, est-ce qu'on a besoin de cet or ? Lorsque cet or est prélevé, creusé dans le sol et exporté pour être mis dans d'autres sous-sols, dans des banques, c'est un peu dommage parce qu'on détruit une biodiversité pour juste stocker de l'or dans des banques. Ouais.
Est-ce que vous avez le sentiment que la Guyane est un territoire qui change beaucoup, on dit en pleine mutation, mais vous qui avez le recul de 40 années sur place, qu'est-ce que vous observez ?
Je dirais à la fois que la Guyane ne change pas, la forêt ne change pas. Je suis retourné dernièrement au pied des arbres que j'ai étudiés lorsque j'avais 23 ans, ce qui est un peu extraordinaire. J'ai eu cette chance-là, ce n'est pas tous mes collègues scientifiques qui peuvent dire aujourd'hui « je retourne sur le terrain de ma jeunesse », je dirais. Et en même temps, elle change énormément. Il y avait 30 000 habitants au début des années 80, 60 000 lorsque j'ai commencé mes études. Nous sommes à plus de 300 000 habitants, essentiellement cantonnés, je dirais, sur le littoral. Il y a une population importante le long du Maroni qui se développe. Le fleuve Maroni. Donc oui, la Guyane change. Il y a besoin de développer le réseau routier. Donc tout cela a un impact. Et puis il y a aussi les échanges avec les pays voisins, le Suriname à l'ouest, le Brésil à l'est. Donc tout cela fait qu'il y a un mouvement et que la Guyane est au carrefour d'un mouvement important de modification de l'environnement entre le Brésil avec notamment l'orpaillage et la déforestation, mais aussi la recherche pétrolière aujourd'hui dans la baie de l'Oyapock. Et puis de l'autre côté au Suriname, pareil, une recherche de pétrole dans
La déforestation justement en Guyane française, on arrive à la circonscrire ou pas ?
On ne peut pas parler de déforestation en Guyane, ce n'est pas du tout le modèle de pionnier de l'Amazonie, c'est plutôt une exploitation sylvicole avec un impact limité. On peut regarder une forêt exploitée il y a 10 ans, il y a 20 ans, finalement on a du mal à dire que cette forêt a été exploitée. Je travaille dans une forêt où il y a eu de l'exploitation aurifère, où il y a eu de l'exploitation forestière, et on y retrouve toutes les espèces que l'on attend d'une forêt naturelle non perturbée.
Ouais. Le tourisme aujourd'hui, c'est une opportunité ou un risque à maîtriser en Guyane ?
Ah, alors ça, c'est une grande question. La région veut développer le tourisme, donc ça pose des questions, bien sûr, d'accueil. Aujourd'hui,
il n'y a pas de grande plage de sable blanc en Guyane. C'est aussi peut-être ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de tourisme.
Mais c'est un autre tourisme qu'on peut offrir
dans la forêt,
aux visiteurs, dans la forêt, mais il faut aussi prévoir les installations. Et comme on l'a déjà mentionné, faire attention aussi à l'alimentation, à l'eau. Et l'eau n'est pas toujours présente, notamment en saison sèche, lorsque les touristes sont attendus finalement.
Qu'est-ce que vous a appris cette forêt guyanaise après 40 ans de terrain, Pierre-Michel Forget ?
La Guyane est un univers extrêmement riche. On ne peut pas
tout aborder, il faut donc faire des choix. Et je pense que dans la vie, il faut aussi faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de me concentrer sur quelques espèces, de bien les cerner, de mieux les connaître, et que ces espèces modèles, finalement, m'aident à comprendre les autres espèces de la forêt. Et aussi, ce que ça m'a appris, c'est aussi à côtoyer des peuples de la forêt qui, depuis des centaines, des milliers d'années, finalement font que cette forêt est encore une forêt.
Merci beaucoup Pierre-Michel Forget. Je renvoie donc sur votre ouvrage avec Julien Norwood qui assure les illustrations. Ça s'appelle 12 mois en forêt guyanaise et c'est publié aux éditions Belin. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce département français que vous aimez tant.
Merci.
Merci infiniment.